11e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, et de Saint Romain, qui est un soldat qui a été martyrisé, par refus évidemment d'honorer les fausses idoles. C'est aussi la vigile de Saint Laurent. Donc demain, ça sera la fête de Saint Laurent, diacre romain. Il était chargé par le pape, c'est lui qui avait toute l'administration, on peut dire, des biens temporels de l'Église romaine à ce moment-là. Et donc le pape Sixte II, qui est allé au martyr quelques jours avant lui, lui avait précisé, s'il reste quelques biens, des dons qu'on nous a faits, etc., dépêchez-vous de le distribuer aux pauvres. Et alors, Laurent lui a dit, je crois que c'est déjà presque fait, enfin, vous n'allez pas partir, souverain pontife, sans votre ministre. Ne me laissez pas là pendant que vous allez au martyr. Et le pape a répondu, ne craignez pas, moi je vais être persécuté comme un vieillard, sans trop de tourments, tandis que vous allez être persécuté comme un jeune, et vous allez être vraiment longuement persécuté. Puisque ils l'ont persécuté de toutes sortes de manières, et à la fin, ils l'ont mis sur un gris, quoi. Et il a eu une force surnaturelle parce que pour le supporter, puisqu'à un moment, Saint Laurent se retourne faire son bourreau en lui disant « Je pense que c'est assez cuit de ce côté, tournez de l'autre et puis mangez. » Pour qu'il fasse ça aussi calmement dans une circonstance telle, ça voulait dire que par un miracle de Dieu, il ne ressentait pas la douleur, sinon ça n'aurait pas été possible. Et souvent, les martyrs ont supporté des choses qui étaient au-dessus de leur force naturelle par une force divine. On voit aussi dans les martyrs racontés longuement, les martyrs du Japon racontés longuement par Saint Alphonse Marie de Ligorie, où on voit des exemples vraiment incroyablement admirables de martyrs. Et un vieillard qui a longtemps tenu, tout d'un coup, il craque et puis il fait un acte d'apostasie externe à cause des douleurs. Puis, bon, après, il se reprend et il fait pénitence. Et on lui pose la question, mais comment ça se fait que vous avez tenu si longtemps, puis tout d'un coup, vous avez craqué? Ah ben, j'ai cessé de prier. Jusque-là, je priais que Dieu me donne des forces. J'étais un peu las, j'ai cessé de prier et aussitôt j'ai perdu les forces. Donc c'est des leçons à retenir. Lundi, ça sera les fêtes de Saint Tiburce et Suzanne, qui sont aussi des tout jeunes martyrs et qui étaient tous deux de famille romaine très élevée. Ça veut dire qu'ils avaient tout pour être heureux. Tous les biens, l'honneur de la noblesse, les biens de richesse, etc. Et pour le Christ, eh bien, ils ont préféré tout perdre plutôt que de renier et de ne pas rester unis au Christ. Donc Saint Tiburce et Saint Suzanne. Chacun à son niveau, mais tous les deux à un niveau très élevé. Le 12, ce sera donc... mercredi, c'est la fête de Sainte Claire, la fondatrice des Clarisses, qui est venue rejoindre Saint François d'Assise, qui lui a demandé de la consacrer, alors en lui coupant les cheveux. Et c'est de là qu'est parti l'ordre des Clarisses, qui a suivi d'assez près la règle des franciscains. Et ensuite, c'est sa jeune sœur Agnès qui est venue la rejoindre, et elle a eu du mal parce que ses parents ne voulaient pas la laisser partir elle aussi. Donc il a fallu qu'elle ait une très forte volonté pour arriver à persévérer. Donc là, la fondatrice des Clarisses. Le 13 août, ça sera encore des martyrs, Hippolyte et Cassien. Le 14, ça sera donc vendredi, ça sera la vigile de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Et samedi prochain, ça sera donc la fête patronale de la France, puisque Regnum Galliae, Regnum Mariae, le royaume de France et le royaume de Marie. Et donc, c'est notre fête patronale. Donc, ce jour-là, on refera comme chaque année le vœu de Louis XIII. Et puis, on tâchera de voir chanter les vêpres et peut-être de faire une petite procession si on en a la possibilité. Et le 16, ça sera donc le dimanche. Et je crois que ça sera la fête, je ne sais plus si c'est la fête de Saint-Joachim, si elle est de deuxième classe ou non. Si elle est de deuxième classe, c'est elle qui prime sur le dimanche, sinon ça sera le 12e. Non, je crois que c'est le 12e dimanche qui prime sur Saint-Joachim, je crois. Donc Saint-Joachim, le père de la très sainte Vierge Marie et l'époux de Sainte-Anne. Et donc, nous allons faire le pèlerinage, où nous serons donc mardi à Sainte-Anne-d'Auray. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notum vobis facio, quod predicavi vobis, quod et acceptistis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais faire un bref commentaire de l'Épître là. Je vous fais connaître en premier l'Évangile, au sujet de l'Évangile que je vous ai prêché, c'est que je ne vous ai transmis que ce que j'ai reçu. Le prédicateur, il ne fait que répéter ce qu'il a lui-même reçu. La doctrine catholique, elle ne s'invente pas. Elle s'apprend, elle se retient et elle se transmet. Et une des définitions au Concile du Vatican, Vatican I évidemment, il est dit, le pape est infaillible en matière, quand il tranche en matière de foi et de mœurs, et donc de révélation, ceci fait partie de la révélation, ou ceci est contraire à la révélation, et là il est infaillible, mais il est aussi précisé que le pape n'est pas là pour avoir des apparitions et puis prêcher une nouvelle doctrine, mais pour garder fidèlement le dépôt. Il est le garant du dépôt. Et toute un des sens de, je crois, l'Église, une sainte catholique apostolique, c'est celui qui est souligné d'ailleurs dans le catéchisme du Concile de Trente, apostolique, c'est-à-dire aussi qui enseigne la doctrine des apôtres. Et les apôtres, ils ne font qu'enseigner la doctrine qu'ils ont reçue de notre Seigneur. Ils n'ont rien inventé. Alors, il peut y avoir une façon plus claire, moins claire de s'exprimer. Il est normal qu'au début, comme c'était difficile à comprendre, c'est un mystère qui nous dépasse, donc forcément, les intelligences sont tâtonnées, même si la foi, ils ont d'abord adhéré par la foi. Donc, selon la magnifique définition de Saint Anselme, il dit Fides coerens intellectu, c'est la définition de la théologie, c'est-à-dire de la science de Dieu. On commence d'abord par faire confiance en Dieu. Si on ne croit pas Dieu, dit l'apôtre à qui on croira, Donc on commence par faire confiance à ce que Dieu a révélé, et ensuite on en cherche l'intelligence. On cherche à mieux comprendre ce qui nous est enseigné. Par exemple, quand notre Seigneur prend des images dans les paraboles, il ne faut pas les prendre dans un sens purement littéral, donc il faut les comprendre de façon intelligente, et là c'est évidemment la Sainte Église qui a l'autorité pour nous l'exposer conformément à la révélation. Donc, la première chose que je vous rappelle, dit l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, c'est l'Évangile. Je vous ai prêché l'Évangile, mais je n'ai vous ai transmis que ce que j'ai moi-même reçu, et dans lequel vous persistez avec équilibre et avec force. Et c'est ce par quoi vous serez sauvés, si toutefois vous persévérez jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il dit, quoi rassonner, prédica verim vobis, si tenetis, hein, c'est-à-dire si vous persévérez dans la foi. Et sinon, ça serait, vous auriez cru en vain, qui ne persévère pas. Celui qui a cru et qui... Alors, c'est aussi défini par le Concile du Vatican, hein, qu'on n'a jamais, une fois qu'on a reçu la foi, on n'a jamais de véritable motif d'en douter et de s'en écarter, si ce n'est à cause de fautes qu'on commet avant. Et donc, peut-être que la grâce se retire, et sinon, on n'a jamais aucun motif de le faire. Et au contraire, plus on avance et plus on admire la corrélation de toutes les vérités de foi, combien elles se correspondent l'une à l'autre. Alors, il rappelle qu'il leur a enseigné d'abord que le Christ est mort à cause de nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors, comme vous le savez, je suis parti sur quelques passages de l'Évangile de Saint Matthieu. Il fit ceci pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. Il y a quelques passages comme ça. Donc, j'ai commencé à creuser, pour faire le rapport entre ce que l'évangéliste disait et quel prophète l'avait annoncé et comment. Et à force de creuser, comme vous le savez, j'ai un livre qui fait 7 volumes, Consumatum Est, et qui montre que quasiment tout a été annoncé sous une forme ou sous une autre, et particulièrement tout ce qui concerne la passion de notre Seigneur. Donc, ça fait un élément de plus pour renforcer la foi. Non seulement il y a eu les miracles qu'ont fait les apôtres, mais il y a aussi le fait que notre Seigneur lui-même, en quelque sorte, s'est soumis dans tous les détails au plan qui avait été fait par son Père, et on peut dire par toute la très sainte Trinité ensemble, de ce qu'il allait faire sur la terre. Alors, ce qui était compliqué à comprendre, c'est que c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui, tout en restant parfaitement Dieu et sans diminution de sa puissance, de son éternité et autres, s'est unie hypostatiquement, c'est-à-dire pour être une même personne avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a été formé en la Sainte Vierge Marie comme un vrai homme, donc avec un vrai corps, avec une vraie intelligence humaine, une vraie volonté humaine, mais sans personnalité humaine. Sa personnalité, c'est celle du Verbe de Dieu. C'est pour ça que le Verbe de Dieu est à la fois Dieu et homme. Et notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, Jésus-Christ, c'est ce qui regarde l'homme, et notre Seigneur, c'est ce qui regarde Dieu. Donc ça fait un tout, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au début, c'était difficile de comprendre. Alors, il y en a qui disaient qu'il n'était que homme, d'autres qui disaient qu'il n'était que Dieu, que c'était qu'une apparence, etc. Bon, il y a eu toutes sortes d'hérésies dans les 3-4 premiers siècles, et que l'Église a surmonté, bien sûr, par les conciles et autres, et qui après a été mis en forme et sublimé par les pères du 4e siècle, et puis confirmé durant tous les siècles. À chaque fois qu'il y avait des remises en doute d'une vérité de foi qui était admise déjà par tous, alors il était nécessaire de rappeler solennellement, et c'est pour ça qu'il y avait des définitions de dogmes. Les dogmes, ils n'enseignent pas quelque chose de nouveau. Ils déclarent simplement d'une façon solennelle ce qui était déjà cru. Et ils ont l'utilité aussi de préciser exactement en quoi c'est cru. Par exemple, c'est défini à Éphèse que la très sainte Vierge Marie est vraiment la mère de Dieu, mais évidemment il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Elle n'est pas la mère du Père, elle n'est pas la mère du Saint-Esprit, et elle n'est la mère du Verbe, non pas en sa nature divine. Parce que là, il est dans l'éternité, il précède la Sainte Vierge de toute éternité. Elle est la mère de Dieu en tant qu'elle a mis au monde Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu incarné, qui est la deuxième personne qui s'est fait homme. Et à ce titre-là, donc, on peut vraiment dire qu'elle est la mère de Dieu. Mais pas en tant qu'elle n'est pas la mère de sa divinité, elle est la mère de son humanité. Voilà. Et donc, quand le dogme va être précisé, la vérité de foi est à la fois précisée, et solennellement confirmée, et en même temps précisée dans quel sens précis. Parce que souvent, les mises en doute sont des imprécisions qui font que c'est mal compris, etc. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est nécessaire qu'il y ait des déclarations dogmatiques. Donc, il rappelle d'abord que notre Seigneur s'est d'abord incarné, ensuite il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures, il est ressuscité 3e jour selon les Écritures. Alors, tout ça s'est démontré en détail évidemment dans mes livres par une comparaison entre les prophéties et leur réalisation. Et ensuite il a été vu par Tchéphée. Alors Tchéphée en grec c'est Pierre. C'est donc par Saint-Pierre, notre Seigneur. Alors c'est le seul endroit où il est précisé que Saint-Pierre il y a quand même un autre passage, que Saint-Pierre a eu une vision, puisque quand les disciples d'Emmaüs reviennent en disant « ça y est, on a vu le Seigneur », etc. Et avant qu'ils revoient tous ensemble l'apparition, tous les 11, et puis les disciples d'Emmaüs avec eux, ils disent tout de suite, oui, on sait déjà parce qu'il est apparu à Pierre. Donc les saintes femmes, on a eu du mal à les croire, les saintes femmes, mais du moment que Pierre l'a vu et puis qu'il nous l'atteste, alors maintenant on sait qu'il est quelqu'un qui ne se laisse pas illusionner ou quoi, donc maintenant on est sûr. Et après, du coup, ils ont l'apparition de notre Seigneur tous les 11. Donc pour ça, il dit, il a été vu d'abord à Pierre et ensuite par les 11. Et avant, entre parenthèses, mais là il ne le précise pas, il a été aussi vu par les saintes femmes. Et puis Sainte Marie-Madeleine et puis les autres Marie qui étaient venues pour poindre son corps au matin de Pâques. Et la tradition nous dit que même la première apparition qu'il a faite, mais d'une façon discrète et intime, ça a été évidemment à sa Sainte Mère. Ensuite, il a été vu aussi, nous dit Saint Paul, par 500 frères. Donc, frères, c'est dans le sens qu'ils sont frères dans la foi. Hein? Si on dit ensemble notre Père, ça veut dire qu'on a le même Père. Si on a le même Père spirituel, évidemment, ça veut dire qu'on est frères. Donc, par 500 frères sur ce plan spirituel, tous les chrétiens sont frères, frères et sœurs. Il a été vu par 500 frères ensemble, dont beaucoup dormiront, nous dit, dont beaucoup sont encore vivants, sont encore là, manent uskaduk, et d'autres dormiront. Donc, dormiront, c'est dans le sens de, ils sont décédés. Mais pourquoi il dit dormiront? Parce qu'on a la foi en la résurrection. Et donc, c'est comme si on avait un long sommeil avant la résurrection. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le terme cimetière, c'est un terme grec qui veut dire dortoir. Parce qu'on sait qu'on ressuscitera. Donc, vous voyez, ce terme de dormiront, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir les originaux, hein, en grec et latin, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de précisions qu'on n'aurait pas dans une traduction française. Ils ne vont pas dire qu'ils se sont endormis. Ils vont rajouter qu'ils sont morts. Ils vont donner, et en même temps, ils font perdre tout le symbole. Ensuite, il a été vu par Jacques. Alors là, il s'agit de Jacques le Mineur, le premier évêque de Jérusalem, qui était l'apôtre le plus âgé, puisqu'il avait 65 ans quand notre Seigneur a été mis en croix. Il est devenu le premier évêque de Jérusalem, et on dit qu'il avait les genoux durs comme de la peau de chameau à force d'être à genoux, et il a été jeté du pinacle du temple par les juifs, parce qu'il prêchait Jésus-Christ, c'est-à-dire l'endroit le plus haut du temple, il est tombé dans la vallée de Josaphat, et il était encore vivant. Ils sont venus l'achever à coups de foulon. Donc il a été vu aussi par Jacques. Et ensuite, aussi, à nouveau, tous les apôtres ensemble. Et tout à la fin, il a été vu par le petit avorton que je suis, puisque vous savez que Saint Paul, bien qu'il était disciple de Gamaliel, et Gamaliel, on a fêté il y a quelques jours que c'est lui qui a fait découvrir le corps de Saint Étienne, puisqu'il était enterré dans son propre tombeau. Donc on a découvert les corps de Gamaliel, Nicodème, celui qui était venu aidé pour descendre notre Seigneur de la croix, puis qui lui a donné son propre tombeau, et Abibonis et Saint-Étienne, ils étaient enterrés ensemble, et Saul, c'est comme ça qu'il s'appelait, il était de la tribu de Benjamin, qui était aussi Paul, Paulus en latin, ça veut dire petit, il était de petite taille. Donc, et il allait avec des lettres de cachet des grands prêtres à Damas pour faire emprisonner les chrétiens. Et comme vous le savez, il a été jeté à bas de son cheval, il a entendu une voix, et Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Me persécutes-tu? Et alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Or, notre Seigneur était déjà mort et ressuscité et au ciel à ce moment-là. Donc, ça veut dire que notre Seigneur, on est son corps, et il parlait de ses disciples, les chrétiens, comme étant lui-même. On forme un même corps avec notre Seigneur. Et donc, il a été rendu aveugle, et ça lui a permis de se convertir. Après, c'est Anani qui est venu sur l'inspiration de l'Esprit-Saint dans la maison où il était, et puis qui lui a fait retrouver la vue, qui l'a baptisé, etc. Et après, il est devenu le grand apôtre, et notamment le docteur des nations. Alors qu'au contraire, jusque-là, ce qui reprochait aux chrétiens, c'était de s'être ouvert de ne pas être resté entre juifs. Vous voyez la force de la grâce de Dieu. Et donc à la fin, moi qui ego enim sum, je suis en effet le plus petit des apôtres, qui ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais je suis maintenant, par la grâce de Dieu, ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine en moi. Donc ça montre aussi, et c'est ce que dit aussi saint Augustin, on ne doit considérer comme ennemi définitif, et on peut dire haïr, puisqu'ils sont des ennemis de Dieu, définitif, que les démons et les damnés. Mais même nos ennemis et les ennemis du Christ ici-bas, eh bien, ils peuvent se convertir. Et saint Augustin savait de quoi il parlait, puisqu'il était tombé dans... Alors, il n'était pas encore baptisé hein, quand ça lui est arrivé, mais il était tombé dans la secte des manichéens. Et le bon Dieu l'a relevé de loin, bon, grâce aux prières de sa maman sainte Monique. Et donc, ça montre aussi quelle patience il faut et avec les personnes qu'on désirait convertir, mais aussi même avec nos propres ennemis. Et regardez saint Étienne, qu'on fêtait encore la découverte de son corps il y a quelques jours, quand on le lapide, sa dernière parole, « Mon Dieu, ne leur imputez pas ce péché. » Et hop, il meurt. Donc il prie pour eux, comme notre Seigneur avait prié pour ses bourreaux, mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie et à sainte Anne, puisque notre pèlerinage est à la fois orienté sur sainte Anne dorée, mais ensuite sur Notre-Dame de Paradis. Quel beau point d'arrivée, n'est-ce pas, Notre-Dame de Paradis, que nous aussi, nous ne faisions que rappeler ce que nous avons reçu, ce qui est conforme à la révélation, que nous y restions fidèles jusqu'à notre dernier souffle, car, comme le rappelait saint Paul, il faut continuer fermement, hein, jusqu'au bout. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé, dit notre Seigneur dans l'Évangile, et de façon à ce que, pour notre pèlerinage terrestre, nous puissions arriver aussi, nous, un jour tous ensemble, et être vraiment des frères pour l'éternité, par Notre-Dame, au paradis. Eh bien, c'est ce que nous allons demander à Notre-Dame et implorer les uns pour les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.